commencer doucement, tranquillement, à discuter entre nous. Ça va être un petit peu en roue libre ce matin, histoire de commencer doucement cette journée, cette belle dernière journée du festival. Donc, nous allons parler un petit peu avec Brice Tarvel à ma gauche, Andoris Smel et donc Emmanuel Roudier. On va parler un petit peu des parcours de chacun et puis ensuite du processus de création par rapport à l'idée de scénariser une histoire, la mettre en image, savoir quel est l'intérêt. Enfin, pour moi, par exemple, la curiosité, c'est effectivement savoir pourquoi est-ce qu'on va plutôt s'attaquer à un texte en l'imaginant, mis en image, plutôt que de le garder en terre, sous forme de texte. Bonjour Emmanuel. Son travail et chacun va un petit peu se présenter. Donc, peut-être on va voir. Ce qui est intéressant de réunir ces trois auteurs, c'est qu'on a trois parcours complètement différents. Et donc, au gré des anecdotes, on va voir comment tout cela est arrivé. Alors, on va commencer par peut-être la première question, et puis peut-être si vous avez envie de m'interrompre, n'hésitez pas. Effectivement, comment vous en êtes arrivé là? Donc, par exemple, Andoris, je sais que tu es d'une formation plus littéraire que dessinatrice, en l'occurrence. Et donc, comment est-ce que l'on est attiré par le monde de l'image et comment on arrive à la bande dessinée, en fait? Comment on passe d'une idée à la bande dessinée, en fait?
On arrive à la bande dessinée, dans mon cas, par hasard. Je vais revenir dessus. Donc, je suis d'une formation scientifique. Devenue prof de bio, littéraire par le goût, par passion. Donc c'est ce que j'aimais faire depuis toujours. J'avais envie d'être auteur. Et je me disais qu'il me fallait trouver un métier qui me permettrait d'être auteur, puisque à 8 ans, quand j'ai déclaré à ma mère que je voulais être écrivain, elle m'a dit que c'était pas un métier. Donc, je suis allée sur le forum du Café Salé, quelque chose comme en 2004, qui est un forum, pour ceux qui ne le connaissent pas, de dessinateurs professionnels, amateurs, parce que j'avais une idée de roman jeunesse et que je cherchais un illustrateur pour illustrer ce roman, un petit peu comme les anciennes éditions de Peter Pan, avec des belles illustrations de pleine page et sur les côtés des pages. Et j'ai rencontré un dessinateur qui s'appelle Marc Yang, qui m'a dit ton histoire elle est super, mais moi je préférerais en faire un manga. Et je lui dis ah ouais super, mais je ne sais pas scénariser. Voilà. Donc il m'a dit c'est pas grave, on va faire ça ensemble et puis je t'aiderai et puis on va essayer. On a essayé et au bout d'un an et demi, deux ans où on travaillait tous les deux, j'ai reçu un mail, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait bonjour, je m'appelle David Chauvel, je travaille aux éditions d'Alcour, super ce que vous faites, est-ce qu'on peut voir plus? Et donc, du coup, quand je dis que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que David Chauvel est un excellent scénariste. Et donc, du coup, il nous a accompagnés sur la création de ce premier album. Et j'ai la chance de l'avoir toujours pour m'accompagner sur la création des albums. J'aurais tendance à dire qu'en fait, c'est pas l'histoire qui a besoin de tel ou tel média. Mais par contre, par rapport aux médias, on va vivre et raconter l'histoire différemment. Et j'ai vraiment senti une différence entre écrire un scénario et écrire un roman ou une nouvelle. Le support change énormément ma façon de créer l'histoire et de la gérer. Et c'est assez rigolo parce qu'avant, je n'avais pas forcément d'histoire qui arrivait pour être racontée sous forme de BD. Et depuis quelques années maintenant que je fais des bandes dessinées, j'ai des histoires qui arrivent et qui sont définitivement faites pour être BD. Donc ça fait plaisir.
Donc les images interviennent dès le processus, dès le premier pitch,
maintenant, oui.
quand tu penses à l'histoire.
Oui, tout à fait.
Est-ce que pour nos deux autres comparses, le processus de création est le même? Et pour parler quelques mots sur vos débuts, Emmanuel par exemple. Alors moi j'ai une formation de graphiste plutôt. J'ai fait d'abord des études d'un bout d'archéo, mais j'ai vite décroché, je dois être très très sérieux. Et ensuite j'ai fait des études de graphisme. Donc je suis venu en fait à la BD, là aussi plutôt sur le tard. Au début j'ai commencé par travailler en tant qu'illustrateur, tout à fait logiquement j'ai commencé par faire il y avait vraiment ce qui me donnait vraiment le plus envie, c'était de raconter des histoires. Et puis surtout de raconter des histoires sur le thème de la préhistoire, parce que c'est ma spécificité jusqu'à présent. J'ai fait une dizaine d'albums juste sur ce thème-là, enfin déclinés de manière diverse et variée. Et donc c'était l'envie de raconter les histoires qui m'a poussé vers la bande dessinée. Et puis évidemment, il se trouvait que je pouvais les dessiner, donc j'ai proposé les récits complets du coup dès le départ. Et ensuite, donc, j'ai adapté diverses manières d'écrire le scénario avec magie, sans magie, adaptation littéraire maintenant, en sachant que ce qui me motive, c'est d'aller dans le sens de combattre les idées reçues sur cette période. Donc vraiment, l'enjeu, c'était vraiment un enjeu de narration, quoi, avant d'être un enjeu graphique. Voilà. Donc ce qui me fait toujours le plus plaisir, ça reste de raconter des histoires. Voilà.
Et tu as un désir quand même de colporter la préhistoire dans le grand public.
Oui, c'est une mission sacrée. C'est ma vocation. Mais il va falloir que j'arrête un moment, parce que là, je commence à patiner au niveau graphique. Par contre, au niveau justement de la narration, j'ai, comme le disait Andoris, il y a vraiment une différence entre l'écriture et l'écriture de scénaristique. Et là, j'ai très envie justement de passer au roman pour aller explorer une autre forme pour approfondir finalement des choses que je ne peux pas vraiment approfondir dans le cadre d'un scénario BD.
Par exemple, dans le cas d'Andoris, où la création de l'album se fait avec une rencontre physique, et donc forcément il y a des discussions, j'imagine, avec le dessinateur. Dans ton cas, comment ça se passe, le combat entre le dessinateur et le romancier? C'est arrivé à laisser la place au dessinateur.
Non, le dessinateur vient de ma couverture dessus et il s'exprime qu'à la toute fin. En fait, je commence d'abord par travailler de manière totalement littéraire, en élaborant une histoire et puis ensuite un scénario découpé sans aucun souci du dessin. C'est-à-dire, justement parce que j'ai pas envie de me faire d'abord de cadeaux spécialement. Je veux pas tomber dans des facilités. Donc je réfléchis de manière totalement abstraite, en fait. Même, oui, j'ai pas du tout de vision d'image d'ailleurs quand je commence à faire mes histoires. Un peu. Mais alors, il y aura plus comme un petit film. Et après, une fois que j'ai mon scénario qui tient bien debout, alors là, je commence à réfléchir tardivement, en fait, sur les dessins. À la manière d'un dessinateur qui se comparerait à un scénario qui ne serait pas le sien. Voilà. Donc ça sera peut-être assez facile de passer de roman, je ne sais pas, j'espère.
Juste, quand tu travailles par exemple au niveau documentation, en l'occurrence, quand Andoris ou Brice, par exemple, travaille sur des. Sur leur dessinateur, quand ils travaillent sur un roman, disons, un texte de fiction, donc avec des personnages fantastiques ou magiques ou autres. Est-ce que quand tu as conscience, par exemple, de d'être cadré dans une limite, est-ce que ton dessin va imposer une vision, disons, presque une revisitation de l'histoire, quoi, en fonction de ce que toi tu vas pouvoir ajouter sur un élément ou autre? Est-ce que tu t'interdis toute l'interprétation ou, comment ça se passe en termes de documentation?
Bon, en fait, je suis documenté de manière, on va dire, presque intuitive, puisque je suis passionné de préhistoire depuis plus de 20 ans. Donc la documentation, elle s'est accumulée dans mon cerveau au fur et à mesure de lecture, ce qui fait que maintenant, j'ai juste besoin de me mettre à jour régulièrement. Je suis les découvertes de la recherche. Hein. Et donc tout ça, ça constitue juste le terreau. Et puis ça fleurit dedans. Alors, donc effectivement, ça fait un mix entre mes propres fantasmes sur la période et tout ce terreau qui naît de des lectures sans arrêt renouvelées sur le.
Tu vas faire la part entre la documentation scientifique et puis t'interdire de rajouter le.
Non, parce que je connais pas. Non, je ne m'interdis pas du tout. Non, parce que mais là, en l'occurrence, après, il faut approfondir ce sujet. Mais c'est vraiment là, en l'occurrence, on atteint à des propos de fond. Est-ce qu'on souhaite faire quelque chose qui soit très rigoureux, ou est-ce qu'on souhaite s'affranchir de ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on veut dire sur la période et sur la façon de transmettre cette période-là? La guerre du feu, par exemple, c'est un roman qui a été écrit il y a 100 ans. Je n'ai pas du tout eu envie de le remettre à jour au niveau des données d'archéologie, pour des raisons qui sont étayées. Par contre, il y a une autre série qui s'appelle Neandertal qui avait à cœur d'être extrêmement rigoureuse, même si c'est une restauration d'aventure. Donc et après, c'est la question finalement du propos de fond, de ce qu'on veut transmettre en fait sur la préhistoire. Et le récit d'aventure qu'on veut raconter aussi.
Donc, ça reste une
fanzine pourri. À l'époque, c'était avec la Ronéo. Et donc, il s'était proposé comme collaborateur illustrateur. Et il est arrivé chez moi. Il me dit je suis embauché chez Fleurus pour un hebdomadaire, à condition que j'ai un scénariste qui me prend des histoires policières avec la résolution de l'énigme à la cinquième planche en retournant le magazine. Donc j'ai commencé par faire ça. C'était mes premières BD professionnelles. Et ça a marché. Je me suis retrouvé 5 ans chez Fleurus à faire toutes sortes de choses. Ça allait des adaptations de la Bible, en passant par l'histoire des Rolling Stones. Enfin, tout y est passé. J'étais un peu dans l'orchestre là-bas. Et ça m'a collé comme un sparadrap à la BD. Après, j'ai été contacté par. J'ai rencontré à Wamri, un dessinateur. On a été embauché chez Soleil. Et là, j'ai fait Série Morte-Pierre, qui a pas mal marché. L'inconvénient, c'est que le dessinateur, il mettait 3 ans pour faire un album. Donc, il n'y avait pas le rendez-vous annuel. Et bon, ben, ça, c'est une situation de scénariste. C'est que le scénariste, il subit. Les carences du dessinateur, là, en l'occurrence, il était très lent. Il disait toujours, en se souvenant de l'album que j'ai fait, de sa qualité, mais pas du temps que j'ai passé pour le faire. Bon, mais toujours est-il que ça a fini au bout du cinquième album par ne pas tenir la route, parce qu'il n'y avait pas ce rendez-vous que les lecteurs aiment bien, au moins annuel, devant l'album, devant la suite. C'est bien qu'après, j'ai fait des albums où l'histoire était complète à chaque album. Une question de prudence. ensuite, j'ai fait ça 15 ans et je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire le texte. Je me suis mis à écrire des romans, des nouvelles de tout genre. Déjà pour la BD, j'écrivais des histoires animalières pour la jeunesse, j'écrivais des histoires pour adultes, vraiment pour adultes, avec Morte-Pierre, les Trains de Ténèbres. Bon, là, c'est d'humour, il y avait des conneries. Et puis, ensuite, donc, je me suis remis au texte, à écrire des romans. Là, j'avais le souffle. Je ne sais pas pourquoi, c'était venu. Et j'ai écrit pas mal de trucs de tout genre. Et puis, dernièrement, on m'a contacté pour adapter, comme je fais, Harry Dixon, La façon de genrer, aux éditions Belle Pertuis, que ça plaît bien. On m'a contacté pour faire Harry Dixon en BD. Donc, au mois prochain, il va paraître l'album. C'est donc un retour à la BD là, pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça demande. Et je continue par ailleurs les romans. J'ai repris Bob Moran, entre autres. J'ai toujours un roman qu'il faut que je termine. Je me demande si je vais y mettre un tremblement de terre comme ça se passe au Brésil. La région amazonienne, alors j'en suis là, je ne sais pas si je vais mettre le tremblement de terre ou pas, ça sera en rentrant, ça c'est ce qui m'attend.
Et alors quand on navigue entre les romans et la bande dessinée, comment les idées se bousculent, comment tu parlais de cette espèce de bouillon de culture au niveau idées qui peuvent arriver, c'est quand tu pars sur une idée de roman ou quand vous partez sur une idée de roman par exemple, et qu'à un moment donné tu te dis, bah, tiens, est-ce que ce matin je me sentirais plus bande dessinée. Vous interdisez de travailler sur un deuxième projet ou est-ce que vous arrivez comme je fais pas le matin, roman, après-midi, bande dessinée.
Je fais pas deux choses en même temps.
Ah, moi aussi.
Le matin, quand je me lève, je regarde un programme de télé, en même temps j'écoute la radio et je sens bien que ce que je lis, si c'est la radio qui domine, je sais plus ce que je lis. Et si je lis, j'entends plus la radio. Donc je sais maintenant que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Et pour l'écriture, c'est pareil. Très rare que j'ai deux choses en route. Et pour le travail, j'improvise beaucoup. Je n'ai pas de plan. Je commence par un titre, je choisis un beau titre, quelques noms de personnages, et j'attaque. Il faut que ça vienne.
Le titre, c'est ta formation de typographe ?
Non. C'est un goût. J'aime bien les titres.
Et là, par exemple, l'idée première, elle vient d'où, en fait ? Par exemple, Andoris, ton univers, il a commencé autour d'un personnage, autour d'un thème, autour d'une quête,
Toujours autour d'un personnage, en fait. C'est systématiquement, quelles que soient les histoires que je raconte, ça commence toujours autour d'un personnage. Et généralement, je pars de ce personnage, j'essaie de savoir qui il est en termes de beaucoup de caractère. puis l'univers en fait se construit autour. C'était également ce personnage-là, parce qu'il a des fans, parce qu'il est entier au moment où je commence, et il va drainer autour de lui d'autres personnages qui vont venir en appui, et des personnages qui arrivent caractérisés aussi. Donc c'est assez agréable de travailler comme ça. Moi, je pars toujours d'un personnage, que ce soit pour la BD ou pour le roman, dans les deux cas. Donc je pense que c'est ma façon à moi de construire un univers. Je suis assez à l'équilibre avec cette façon de faire. J'aurais du mal à construire un univers et après me dire, bon, ok, qui habite dedans? Ça me semble pas naturel du tout.
Et alors, la construction des personnages, tu l'envisages par exemple comme les lieux, à savoir une description des éléments, pas de croquis?
Non.
Et est-ce qu'il y a des renvois, par exemple, à quel moment intervient le dessinateur? Est-ce qu'il y a des renvois aussi sur la construction de... Est-ce qu'il peut intervenir à ce moment-là, par exemple, collaborer déjà ensemble?
Au tout départ, ce que j'envoie au dessinateur, c'est un dossier avec la description de l'univers. Donc, j'ai déjà bien avancé la description de l'univers, la description des personnages, il y a la description physique, il y a la description morale, surtout, beaucoup, de son caractère, de sa façon d'être, de tout ce qui va le caractériser. Il y a son passé également. Et généralement, je mets des inspirations. Puis voilà, mon personnage, il me fait penser à tel personnage dans tel film ou dans telle série, de façon à lui donner des indications d'ambiance, entre guillemets, de ressenti. Et le dessinateur m'envoie des croquis sur ce personnage. Et j'ai vraiment des images de mon projet avant, j'ai vraiment des images de ma BD avant. Mais à partir du moment où le dessinateur m'envoie les personnages en dessin, ça a marché à tous les coups. J'espère que ça continuera à marcher comme ça. À partir du moment où je reçois les dessins du dessinateur, généralement, l'image qu'il a de mon personnage supplante la mienne. Et à partir de ce moment-là, j'imagine mon histoire avec ses dessins. Et c'est très, très cool.
Quand tu as l'idée d'un premier personnage, par exemple, vu que tu travailles avec plusieurs dessinateurs, est-ce que tu envisages déjà une patte ou est-ce que c'est OK ensuite une rencontre, par exemple, de nouveaux dessinateurs peut venir percuter le projet en cours, ou est-ce que voilà, est-ce que c'est déjà établi?
C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, parce qu'il y a eu des projets où j'avais d'abord mon projet, effectivement, et où c'est le dessinateur qui a amené après sa patte. Et il y a eu des projets où David Schumann, donc mon directeur de collection, me disait, bah tiens, j'ai tel dessinateur, est-ce que tu aurais un projet à lui proposer? Et alors là, généralement, je regarde ce que fait le dessinateur, je m'imprègne de cette ambiance, je m'imprègne de tout ce qu'il prend dans ses illustrations ou dans ses précédents BD. Et généralement, j'ai des personnages qui viennent en disant, bah ouais, on veut bien travailler avec lui. Voilà. J'ai une histoire qui vient, qui généralement colle, entre guillemets.
Tes personnages, j'ai l'impression que tu leur accordes beaucoup d'importance dans le processus même.
Énormément.
Tu te laisses guider.
Beaucoup, oui.
Alors, dans le processus de travail, parce que donc Brice nous explique qu'il a arrêté la télé et la radio. Et toi, je crois savoir que tu ne travailles pas forcément dans un lieu complètement isolé, coupé du monde.
À l'heure actuelle, j'ai deux scénarios de BD et deux romans en parallèle. Voilà.
Mais dans quel type d'ambiance tu travailles, par exemple?
Généralement, en autarcie musicale. Je me mets mon casque sur les oreilles et je bosse. Et le fait d'avoir plusieurs projets côte à côte fait que... si jamais à un moment je suis bloqué par une scène dans un roman par exemple et que cette scène me bloque vraiment, je sens qu'elle n'est pas faite, elle n'est pas finie, je prends le projet, je le mets de côté, je me dis bah tiens je vais faire autre chose, ah bah tiens j'ai un dossier BD à finir et hop je change d'univers assez facilement. Donc pour travailler, la seule chose dont j'ai besoin c'est de mon casque et de musique et de mon ordinateur de préférence avec la batterie. Et sinon ça marche très bien, c'est n'importe quand, sans problème, et sur n'importe quel projet, parce que j'en ai toujours plusieurs en parallèle pour ne pas être bloqué, justement.
Donc Emmanuel, tu t'immerges dans la préhistoire avant de commencer un scénario, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Donc c'est un univers dans lequel tu baignes tout le temps, alors là, bon, sans parler de la vie de famille, je ne sais pas comment on va faire ça. Je me comporte de manière tout à fait civilisée. Je suis immergé relativement en permanence au niveau du citron, bien sûr. Oui, pour remonter sur ce que disait Doris, du coup, en fait, c'est, pour ma part, l'élaboration du scénario, il n'est pas systématiquement des personnages, mais c'est vrai que les personnages sont prépondérants. Dès qu'ils apparaissent, l'histoire prend du corps.
en l'occurrence, c'est une petite galerie de personnages qui est apparue très graphiquement là pour le coup. Donc ça, je me rends compte que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je sais que ça peut aussi être les dessins qui viennent en amont. Donc là, j'avais quelques personnages qui sont apparus, mais assez flous, des couleurs, des taches de couleurs, finalement plutôt rapides et des sensations. Et je suis parti là-dessus. Et ensuite, j'avais quelques. Donc c'était vraiment. Je les ai mis comme ça un petit peu dans un coin de mon esprit. Et ensuite, j'ai commencé à travailler le fond, ce que je voulais dire. Mais du coup, à chaque fois, les personnages, ils apparaissent vraiment quand je sais quel est le propos que je veux tenir. Et du coup, ils remplissent tout de suite une fonction. Une fonction démonstrative presque dans le récit. Voilà. On va regarder de façon encore différente parce que c'est une adaptation. Après, pour le roman, là, par exemple, sur lequel je travaille, là aussi, c'est la galerie des personnages et l'univers qui est bâti autour qui me soutient. Et là, je suis un peu perplexe parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à identifier très clairement. Qu'est-ce que je voulais dire vraiment avec ça? Donc, il y a un cap qui n'est pas passé. Même si le scénario se bâtit de manière assez tentaculaire, hein. Mais j'ai toujours pas identifié quel était le propos du fond réel de l'intrigue. Donc, là, pour l'instant, ça, il y a la technique qui n'est pas totalement faite. Quand il sera fait, ça pourra prendre toute son énergie. Quoi.
Et au niveau du terrain scientifique, le regard scientifique, tu as eu quelques fois des retours.
Non, parce que c'est pas des conneries qui s'arrêtent. Non, au niveau des termes, j'ai été trouvé des paléontologues, des préhistoriens, mais ils sont très bienveillants, hein, parce que surtout les préhistoriens qui sont des gens qui ont déjà publié beaucoup, qui sont des contes, qui ont rien à prouver, et qui savent ce que c'est très important de vulgariser de manière avec cœur. Le fruit de leur travail. Souvent, c'est l'espèce d'amateur éclairé qui pinaille sur des grands petits troncs en général. Donc, j'ai beaucoup de contacts avec les préhistoriens maintenant, les archéologues. Ça nourrit mon imaginaire. Mais je tiens toujours à garder la main sur le sujet, parce que c'est quand même une œuvre de fiction. Je ne veux pas travailler servilement vis-à-vis de la science. Et je m'en sers, quoi. Je l'utilise comme un matériau et après, de toute façon, on bâtit une histoire qui, si elle est taillée sur la science, c'est très bien, mais on peut prendre des libertés dans la mesure où ça reste cohérent dans un univers qu'on définit et où on prend pas les lecteurs pour des idiots en faisant croire que, par exemple, il existait vraiment des hommes à tête d'animaux il y a 30 000 ans. Sinon, les préhistoriens sont très demandeurs justement d'histoires qui soient quand même bâties sur un fond solide, mais qui prennent des libertés. Parce que justement, c'est ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire.
Il y a un regard bienveillant sur l'objet de bande dessinée. C'est pas condescendant en disant mais pourquoi vous faites pareil.
Certains, mais l'essentiel, il y a la génération des chercheurs qui sont vraiment en poste maintenant à la sensibilité, c'est les gens qui ont grandi avec la BD et qui collectionnent. Ils collectionnent des BD beaucoup, surtout les BD sur la préhistoire, ils aiment beaucoup ça. Ouais. Alors après, ceux qui sont en retraite maintenant, ils connaissent moins, ils sont en retraite.
Et dans ces récits, par exemple, enfin pour les trois, lorsque vous élaborez une histoire, une envie de raconter, parce que c'est quand même. Même en tant que dessinateur, c'est quand même l'envie de raconter qui prime au départ, si j'ai bien compris vos propos. À quel moment, pourquoi la bande dessinée finalement ça peut être un roman illustré, pourquoi pas ton travail peut très bien se faire dans un cadre avec un texte, je dirais, dense, avec des illustrations, disons, de travail. Est-ce que vous pensez que la bande dessinée, c'est réellement le médium le plus adapté, est-ce qu'il est vraiment figé autant qu'on peut le croire quand on voit la production en France, par exemple? Il y a quand même des choses très diverses qui sortent, mais pour le grand public, parce que vu le nombre de publications, on a quand même systématiquement l'impression que la bande dessinée, c'est l'album entre guillemets soleil de 46 planches, point barre. On ne sait pas, c'est pas le cas, mais donc si on peut parler un petit peu autour de ça, de ce.
Très rapidement, je passerai juste après, parce que en fait, réfléchi par la suite. Là, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais très envie de travailler le noir et blanc. C'est la raison pour laquelle, du coup, les premiers albums que j'avais publiés, qui étaient épuisés, je me suis battu par un beau diable pour les faire rééditer, donc par un autre éditeur, Milo, d'ailleurs. Enfin, bon, bon. Et du coup, en noir et blanc. Parce que là, on est plus dans un objet livre. Et c'est là que je me rends compte que j'ai besoin d'aller dans cette direction-là, parce que plus la BD se rapproche d'un livre, c'est-à-dire plus c'est gros et plus c'est en noir et blanc, mieux ça me plaît. Voilà, donc voilà pour ma part.
Oui. Et apparemment, c'est toujours le livre qui fascine quand même. Parce qu'on voit les footballeurs, les acteurs qui ont tous envie, les hommes politiques en parlant, qui ont tous envie d'écrire un livre. C'est quand même le livre. Mais ce qui triomphe commercialement, c'est la BD.
Tente de nous dire que c'est la pas du gain qui te guide vers la bande dessinée.
Plutôt, on en a connu plutôt comme envie. Et là, je dis, la bande dessinée, moi j'ai fait ça pour rendre service, mais c'est très intéressant à faire. Moi j'aime bien les diversités, que ce soit les sujets, que ce soit les supports. J'aime bien que brasser un peu tout et je fais ce qu'on me dit, ce qu'on me propose.
Et en Doris, donc. Tu as l'impression de pouvoir encore éclater le cadre de la bande dessinée, ou est-ce que l'idée est pour que l'histoire soit le mieux la mieux acceptée et puis la plus fluide possible, est-ce qu'il faut se conformer au cadre existant au niveau de la bande dessinée, savoir le gaufrier, disons, prévisible, ou est-ce qu'on peut se permettre des mises en page pas possibles, des choses comme ça?
Alors c'est rigolo parce que en fait c'est souvent les dessinateurs qui ont envie d'éclater la mise en page. Vraiment, c'est une envie qui je trouve vient d'eux. Parce que moi je raconte une histoire, donc le média bande dessinée, maintenant j'ai des histoires qui sont faites pour ce média-là. Moi je trouve qu'elle est très enrichissant de certains points de vue. Il y a des choses qu'on peut faire en bande dessinée et qu'on ne peut pas faire en roman, parce qu'en roman on transmet tout. En fait, c'est les mots qu'on transmet. Alors on écrit tout. Et donc, bien sûr, on n'est pas dans la tête du lecteur, hein, mais je trouve qu'en BD, on est encore moins dans la tête du lecteur. C'est cette fameuse magie du vide, magie de l'absence, en fait, qui fait qu'on va, mettre des choses dans les bulles, raconter une histoire, mais il y aura un joli dessin. Et en fait, selon le dessin, selon ce qui est dans la bulle, on va pouvoir faire passer tout un tas de sentiments, tout un tas de choses via ce média-là, qu'il aurait fallu faire passer avec des mots dans le roman. Donc je trouve qu'il y a une petite magie supplémentaire dans la BD à cause de ça. En termes d'éclatement de forme, j'ai beaucoup de dessinateurs, oui, effectivement, qui veulent éclater la forme de la bande dessinée, mettre des cases en diagonale. Il y a aussi une grosse influence manga en termes de découpage folichon qu'on a vu arriver ces dernières années. Personnellement, j'ai l'impression que les découpages fantaisistes, c'est pas tant qu'on ne peut pas les faire, c'est qu'ils ne servent pas forcément l'histoire. En fait, ils ne servent pas forcément la lecture non plus. Or, ce qu'on veut, c'est pas que le lecteur s'arrête, regarde la planche et dise waouh, il a été très fantaisiste dans le découpage. On veut pas que le lecteur voit le découpage. On veut que le lecteur soit dans l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est mon propos, c'est mon but. Donc, du coup, je sais pas si le découpage fantaisiste sert l'histoire. Par contre, en termes de volume, en termes d'objets BD, l'année dernière, je me suis éclatée sur un 3x90 pages. Fait à un rythme de folie avec un dessinateur qui allait plus vite que moi. Ça existe. Et donc, c'était assez extraordinaire d'avoir un tel volume tout d'un coup, tout de suite, découpé en trois volumes avec des chapitres de 20 planches. Enfin, voilà, c'était, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une autre façon de construire, parce qu'on allait très vite, parce que c'était pas le même format et parce que mon histoire était beaucoup plus longue. Et donc, beaucoup plus. Où j'ai pu mettre beaucoup de choses autres. Dans un album 46, qui est forcément contraignant, effectivement, en termes de pagination.
Et lorsque tu écris un roman dans la même histoire, dans le même univers que ta bande dessinée, est-ce que tu as l'impression de te réapproprier l'histoire, ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis tiens, là, il manquait bien une image, finalement, je vais en refaire une bande dessinée. Comment on fait pour revenir au roman quand on a vu, quand quelqu'un nous a plaqué des images, disons, sur notre imaginaire?
C'est là où on voit qu'effectivement, il y a une double influence, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fourni le roman au dessinateur, au moment où j'ai fourni le scénario au dessinateur, il s'est approprié les personnages, il s'est approprié l'histoire, il s'est approprié les lieux, rendu des choses, il m'a rendu des choses par rapport à ce que j'avais fait, des choses que je n'avais pas écrites dans mon dossier, que je n'avais pas écrites dans mon scénario, en me disant, tiens, je donne un exemple pour ceux qui connaissent l'histoire, s'il s'agit des enfants des marins, qui me dit, tiens, dans quelle usine de Maximilien, marchand de sable, je vais mettre des tatous, parce que les tatous, c'est cool. Et si je n'avais pas du tout écrit que je voulais des tatous. Mais du coup, effectivement, quand je suis revenue au roman...
Vous avez mis des tatous.
Oui, j'ai mis des tatous. Ah oui, c'est parce que les tatous, c'est cool. Et donc, effectivement, j'ai récupéré tout ce qu'il avait apporté à l'univers et j'ai pu le lui restituer dans... L'histoire n'aurait jamais été comme ça s'il n'avait pas été là. Parce qu'il y a plein de choses qu'il a amenées graphiquement et que j'ai pu restituer après dans le roman. Donc, j'ai pas eu l'impression de me le réapproprier. J'ai eu l'impression de faire exactement le même exercice qu'il avait fait, c'est-à-dire que lui, il avait pris mon histoire de base et il en avait fait une bande dessinée, parce que sans le dessin, bien sûr, il y a le scénario à la base, mais le dessin, c'est quand même le média, c'est par là que se transmet l'histoire, parce que sinon, on ne fait pas une BD. Et moi, j'ai eu l'impression de faire l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pris notre BD et j'ai donné un autre média, mais c'est notre histoire. J'ai pas eu l'impression que c'était la mienne. Donc, il y a ces idées dedans, il y a tout dedans.
Il y a un enrichissement entre toi et les dessinateurs et entre collaborateurs, je dirais.
Oui, c'est aussi ça qui est cool, quoi, en fait, parce que j'ai vraiment la sensation que les histoires n'auraient pas été aussi appuyées, aussi intéressantes, aussi denses, si on n'y avait pas réfléchi à nos cerveaux. Oui.
Alors, ça me renvoie un petit peu vers Emmanuel, parce que, sachant que tu travailles tout seul, est-ce que tu aurais, du coup, à force de travailler, de te confronter à cet univers-là, est-ce que tu aurais envie d'adapter des auteurs un peu moins morts, par exemple?
Juste rebondir sur la question d'avant par rapport au choix de la BD, puis je réponds à ta nouvelle question dans la suite. Il y a quand même c'était pas juste par facilité finalement quand même que j'ai choisi la BD pour raconter les premières histoires, mais il y avait un support graphique qui permettait de parler de la préhistoire de manière, avec de l'image. Quand on veut dessiner par exemple des Néandertaliens, on a envie de les rendre immédiatement visibles et accessibles. Et donc là, en l'occurrence, l'image, c'est une évidence, parce que ça va être beaucoup plus pratique de dépeindre tout un univers comme ça, qu'on veut rendre accessible et quand on veut montrer le caractère radicalement différent de ce qu'on pouvait avoir en tête dans les idées reçues. Si je veux montrer un Néandertalien tel qu'il est vraiment maintenant, tel qu'on le conçoit maintenant, il faut. Voilà, c'est beaucoup plus évident un dessin qu'un texte. Et après, donc ça c'était un choix qui était vraiment rationnel. Je trouve la limite de ça, c'est que du coup on est totalement dans le descriptif. Ça manque un petit peu de flou. Et après, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est pas ce qui passe dans le dessin et qu'on ne contrôle pas. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la manière dont je vais illustrer mon scénario, j'ai. Comme disait Andoris aussi, là, il y a plein de choses que je rajoute, mais alors là, sans en avoir du tout confiance. Des éléments qui ne sont pas réfléchis, qui sont de l'ordre je ne sais pas, du politique ou pas, mais qui sont en deçà de ce que je réfléchis en termes d'efficacité. Quoi. Voilà. Donc voilà, pour finir sur la question du choix de la BD. Pour la question des auteurs morts. j'ai envie de travailler avec un scénariste, en fait, justement. D'abord pour pouvoir dégager une partie de mon esprit pour me consacrer à l'écriture, et aussi pour changer, effectivement. Et donc, je travaille quand je viens de signer un contrat avec David, justement, et qui sera le scénariste à l'éditeur d'un one-shot dans la série 7. Et avec Serge Lehmann au scénario, voilà, pour de fantasy. Et donc, c'est ma première collaboration. Donc, on va voir si ça fight ou si ça se passe bien. Je suis sûr que ça va bien se passer parce que je suis très docile quand je suis juste employé. Ça va très bien.
Donc, en fiction complète, quoi.
Voilà. Oui, là, en l'occurrence, en fiction complète, je n'ai pas encore son scénario. J'ai signé les yeux fermés. Ouais, non, peut-être. Mais non, ça sera de la fantaisie, donc ce sera des baguettes magiques. Je suppose.
J'ai envie de voir ça. Ouais. Et alors, par exemple, pour tous les trois, qu'est-ce que. On n'a pas donné les recettes, mais des vérités de scénariste ou s'il y a dans la salle. Aujourd'hui, après vos expériences, disons, qui ont maintenant quelques années plus ou moins, quels seraient les premiers conseils en fait? C'est quoi? C'est harceler les éditeurs? C'est faire un beau job ou faire un dossier en se conformant à ce qui est demandé? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut donner l'espoir de faire de la bande dessinée, même si le livre papier est en train de se remettre un peu en question?
Pour contacter les éditeurs, pour essayer de s'insérer, c'est pas évident, surtout en ce moment. Mais déjà, une chose à retenir, les éditeurs n'aiment pas qu'on leur propose plusieurs choses à la fois, et qu'il y ait trop de lectures souvent. Il ne faut pas les étouffer avec un gros dossier, il faut que ce soit clair. Et puis quoi? Il faut s'acharner surtout. Il ne faut pas laisser tomber au premier refus, il faut avoir l'esprit de batailler, de s'accrocher. Ou alors, il faut vraiment être très talentueux, et là, on époustoufle dès le premier contact. C'est merveilleux, ça arrive aussi, ça arrive, les miracles existent.
Doris,
par rapport à comment présenter, pour l'avoir entendu, parce que bon, j'ai pas beaucoup vu de dossier BD non plus, mais pour l'avoir entendu, c'est très très difficile de proposer un dossier BD sans avoir déjà un dessinateur avec. En tant que scénariste, arriver directement chez l'éditeur avec un projet de scénario sans un dessinateur pour travailler avec, c'est... Le projet aussi extraordinaire soit-il, en fait, c'est très 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 compliqué juste même de le faire lire. Parce que sur un dossier BD, généralement, les deux arrivent ensemble. Dans le dossier BD, généralement, il y a des planches. Et si on n'en est pas déjà à ce stade-là, en fait, l'éditeur ne peut absolument pas juger de est-ce que vous êtes vraiment capable de faire une planche de BD. C'est-à-dire, c'est bien de l'écrire, mais c'est impossible de savoir si ça peut aller de l'écriture à la réalisation. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir le dessinateur. Quand on présente un projet, c'est très très compliqué de présenter un projet sans avoir le dessinateur directement. Alors, justement, je parlais du café salé tout à l'heure. Maintenant, on a quand même un outil qui est extraordinaire pour trouver des dessinateurs, ça s'appelle Internet. C'est génial. Alors, moi, je travaille avec des dessinateurs qui sont à l'autre bout de la France, hein, et je ne sais pas, en fait, comment les gens faisaient avant. Voilà. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut échanger très très vite et travailler très très vite ensemble. Donc, trouver des dessinateurs, maintenant, c'est plus aussi difficile que ça avait été. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Si le projet de scénario est bon, il y aura des dessinateurs intéressés. S'il y a des dessinateurs intéressés, il y a moyen de démarcher les éditeurs.
Oui, profiter des communautés qu'on peut trouver sur le net et puis se renseigner. Est-ce que les salons, par exemple, comme Imaginal, peuvent servir effectivement, disons, à rencontrer un éditeur, par exemple, est-ce qu'on voit encore sur des salons des prétendants, je dirais, se balader avec des cartons à dessin et puis des dossiers papier, par exemple?
Moi, j'en ai déjà vu, oui, effectivement, des gens, donc des dessinateurs. Alors, le dessinateur, une chose incroyable, c'est qu'effectivement, s'il fait des dessins super cool et qu'il a un classeur plein de dessins super cool, y compris des planches réalisées par lui-même, même s'il n'a pas de scénariste, c'est très très facile d'attirer le regard et l'attention d'un éditeur de bande dessinée, parce qu'un très très bon dessinateur, on a envie de le faire travailler, en fait. On a vraiment envie de le faire travailler si le dessin vaut la peine. Pour le scénario, c'est plus compliqué parce que ça demande plus de temps qu'un simple coup d'œil. Ça demande une discussion, et sur un festival, enfin, on va pas se leurrer, c'est compliqué. Les éditeurs sont généralement occupés. Ils ont généralement plein de choses à faire. Donc, je pense qu'il y a des rencontres effectives. C'est souvent des rencontres de personnes, donc des coups de bol, des tout à coup une discussion parce qu'on est à la même table, parce qu'on va perdre du temps dans la même file d'attente. Et oui, il y a encore ce genre de magie. Enfin, en tout cas, j'y crois.
Mais ça reste, disons, la part minime de... Bon, là, on est dans un festival, disons, pluridisciplinaire, mais un festival de bande dessinée, c'est quand même aujourd'hui, il y a quand même de grosses critiques sur les salons de bande dessinée qui sont devenus depuis un moment maintenant, la dédicace à la chaîne, et la rencontre entre créateurs est vraiment quelque chose qui est passé...
Très très motivé, très très courageux pour essayer de rencontrer quelqu'un à Angoulême, par exemple. C'est déjà très compliqué de circuler à Angoulême, donc.
Et alors, l'évolution de la bande dessinée, par exemple, si on parlait un petit peu de numérique, alors là, c'est quand même intéressant de faire le rapport entre une bande dessinée préhistorique qui pourrait se lire sur une tablette. Pour vous, vous avez déjà eu une expérience là-dessus, sur la diffusion numérique de vos ouvrages? Alors, je parle de bande dessinée, pas de romans, parce que là, bon, on sait que les liseuses sont de qualité, mais durant une bande dessinée, moi j'ai vu des lecteurs de bande dessinée lire
changements extrêmement subtils d'une case à l'autre ou des mouvements de certains
individus.
Oui, ce genre de choses.
Tu rentres dans une usine et là, tu as un lien qui t'amène dans ton véritable lieu.
Oui, pourquoi pas, avec un mode de déplacement un petit peu spécial où on a fondu vers, comme si on s'était déplacé vers l'autre lieu. Oui, pourquoi pas.
On peut avec Ulysse Rift sur la tronche.
On peut tout imaginer.
Vous allez vous y mettre.
En tout cas, j'étais surpris de voir que effectivement, les versions numériques de Rigueur du Feu ont bien fonctionné. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, c'est surtout en fait, les gens qui. Parce que du coup, ça, c'est bien rendu en numérique. C'est surtout les gens qui ont acheté aussi la version papier. Qui achètent aussi le support numérique. Ils ont les deux. Ça. Ça va être des collectionneurs, comme ça, ils ne veulent pas abîmer leur livre. Mais je sais, c'est vrai que c'est tout à fait bizarre parce que c'est. La lecture sur un iPad, alors sur une liseuse conservera blanc, mais ou alors sur un Kindle Fire. Sur un iPad, c'est on lit page après page, on n'a pas la double page. Donc effectivement, c'est pas conçu comme ça. J'avais vu un copain qui lisait une BD sur son iPhone, alors ça faisait un peu storyboard en fait, c'était case après case. Ça rajoutait des bruits, ça rajoutait des effets de pas boum boum, ça me paraissait vraiment BD, enfin, dessin animé du pauvre en fait. Donc c'était ça m'avait pas du tout excité. Et je pense qu'il y a des choses à inventer clairement hein, bon moi je suis à la traîne à ce niveau-là, mais alors une force. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être dans la pièce là ou qui ont 20 ans et qui ont trouvé des idées que j'ai même pas encore en germe. Par contre, pour ce qui est du travail. On voit de plus en plus de collègues qui travaillent directement en numérique. C'est vrai que ça fait gagner. Il y a un critère de temps qui devient prépondérant auprès des éditeurs qui mettent une pression, comme le disait Brice tout à l'heure, pour que ça sorte quand même vite. Donc on tend maintenant à réduire le temps de production d'un album. Donc le fait de travailler de manière numérique, ça fait gagner un petit peu de temps. Pas forcément retourner un petit peu. Juste assez pour que pour séduire un peu plus les éditeurs, en l'occurrence pour les lecteurs par ricochet. C'est vrai, donc on voit de plus de gens qui travaillent directement sous les Cintiq, par exemple, sur des grandes tablettes sur lesquelles on peut dessiner directement.
Du travail en traditionnel, c'est-à-dire
des ancrages, mais là par exemple, typiquement, on se rend compte que dans la manière de travailler une planche de BD, de plus en plus d'illustrateurs zappent la phase d'ancrage parce qu'avec un bon traitement de l'image, on peut faire un crayonné qui soit tout à fait ou alors passer directement à la mise en couleur directement sur palette graphique. Donc ça modifie quand même la façon de fonctionner et sans doute pour avoir des très bons résultats. Hein. Moi, je continue à travailler à l'ancienne. Pourquoi même pas, il y a beaucoup de choses que je retouche sur ordinateur, le texte que j'inclus comme ça dedans.
En dehors, tes dessinateurs travaillent quasi exclusivement en numérique, non?
Je réfléchis, j'en ai un qui fait les deux, je reviendrai sur ce cas particulier, j'en ai deux qui, alors, le dessinateur des enfants d'Evernight fait du crayonné papier case par case, c'est-à-dire qu'en fait il a des grandes feuilles, et chaque grande feuille est une case, après il scanne et il monte entièrement la planche sur l'ordinateur et il n'encre pas, il passe directement à la couleur numérique. Xavier Colette fait tout entièrement numérique sur Cintiq. Donc effectivement, il n'y a plus aucune étape papier pour Xavier. Et puis donc j'en ai mis un troisième, donc Tim, un dessinateur du cercle, donc un comics, le fameux comics 3x80 planches, le jeune dessinateur très talentueux, extrêmement rapide. Qui était capable de m'envoyer deux planches en me disant « Alors à droite, c'est un ancrage tradit, à droite, c'est à gauche, c'est un ancrage numérique, tu préfères lequel ?» Et je ne voyais pas la différence. Mais il fait toutes ces planches où là, effectivement, il y a du crayonné derrière et par contre, il fait 4 ou 5 tentatives d'ancrage différents numériques traditionnels, encre de Chine, pinceau, plume, tu le vois,
dans l'écrit. Est-ce que tu as eu des expériences avec les dessinateurs numériques
un petit peu là dernièrement, mais bon, pour scénariste, c'est un peu un crayon de mine, taper directement à l'ordinateur, et puis c'est tout, ça ne va pas plus loin pour le scénariste. Mais
l'édition, par exemple, c'est un peu dommageable.
C'est vrai que enfin, depuis, moi, je sais que depuis qu'il y a beaucoup de dessinateurs quand même, qui travaillent sur Photoshop et en numérique, du coup, il y a un regain de la vente des originaux par les galeries d'art. Là, on a vu par exemple Daniel Mangan, où par exemple, ils ont fait une vente aux enchères avec Sotheby's, où ils ont explosé des records de vente sur des planches de bande dessinée et aussi sur l'illustration. Parce que par exemple, bon, il y a Billy Graffé, par exemple, et Manchu qui travaillent encore en traditionnel. Et certains autres dessinateurs qui travaillent en publication, disons en numérique, se sont mis à faire des originaux papier et étoile pour pouvoir vendre ça en galerie d'art. Et bon, ils ont ça atteint des prix. Elle pourrait valoir tripette, je pense qu'elle était effectivement bien soutenue par une galerie comme il faut. Parce que dans Daniel Morgan, ils ont fait des. Ça a été publié, mais. Des originaux de Manchu ou d'idées graphiques quand même qui se sont vendus 35 000 euros quand même. Donc, ça laisse rêveur. Hein. Donc gardez bien vos originaux quand vous en croisez. Hein. Est-ce que vous êtes.
Non, c'est juste pour finir, il y a des dessinateurs, donc, par exemple comme Xavier Bollet qui font du 100% numérique et qui font des tirages en quantité voilà. Et numérotés aussi. Ouais. C'est quand même pas la même chose.
Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, par exemple? Est-ce que vous aimeriez qu'on aborde. Scénariste et dessinateur. Alors, sur vos projets, par exemple, quelles sont les prochaines publications que l'on peut attendre et espérer?
Moi, pour l'instant, je fais beaucoup de suites. Donc, je suis dans la suite des Enfants d'Evernight. On travaille sur le volume 3. Le dessinateur travaille sur le volume 3. Moi, j'ai fini le scénario. On a toujours une étape d'avance. Il vaut mieux. Je travaille également sur la suite de Soufflement avec Xavier Colette. C'est pour ça qu'il est là. Voilà, c'est travail. Donc, lui, il est en train de réaliser le volume 2. Moi, je suis en train d'écrire le volume 3 pour que ça fasse bien terminer. Donc, c'est celui sur lequel je travaille en ce moment beaucoup. Et puis, en roman, je suis sur la suite du roman des Enfants d'Evernight. On est à l'étape des corrections. Et sinon, j'écris sur un autre roman, pas encore signé pour le plaisir à côté. Et j'ai fait deux autres projets de BD, mais ceux-là, ils ne sont pas signés. Donc,
Ok, une semaine bien remplie. Toujours. Bon. Messieurs.
Pour commencer, il y a la fin de la série La Guerre du Feu en trois tomes. Donc, il y a le tome 3 qui va sortir en octobre, là, qui est quasiment fini. J'ai presque fini les planches en noir et blanc. Je vais confier tout ça à mon talentueux coloriste Simon Champlevier, qui travaille sur ordinateur d'ailleurs. Il fait un travail superbe. Et puis, j'attaque dans la foulée justement la BD avec Serge, du coup, Serge Lehmann. Quand je vois les scénarios, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, puis bon, on va dessiner des choses pas du mais ça se trouve, je ne sais pas, je fais confiance. Après, j'ai d'autres projets, mais là, encore même, hein, de la même manière que ma collègue, c'est des projets qui sont en train de s'élaborer, qui ne sont pas signés. On verra lesquels me plairont, lesquels plairont également aux éditeurs. C'est difficile, il faut trouver des pitchs. C'est en deux phrases pour séduire les journalistes, très efficace, donc bon, on va voir. Par ailleurs, je travaille aussi comme illustrateur, donc j'ai tourné des contrats d'illustration pour un peu de jeunesse, pour des sites, des musées, donc ça fait des petites récréations comme ça aussi régulièrement. Et puis le roman, on verra ça.
Oui, tu auras trouvé le pourquoi tu veux l'écrire.
Mais c'est ça, voilà, que j'ai trouvé l'essentiel. Sur la BD, j'ai donc cet album d'Harry Dixon qui est entre les mains d'un petit éditeur un peu excentrique, on ne sait pas trop comment il va gérer ça. Donc j'ai le titre, comme d'habitude, du suivant qui va s'appeler Les Anges au sommet de plomb. Je ne sais pas trop ce que seront les anges. Il n'y a que servir les semaines de plomb, mais bon, non, ça sera ça si tout fonctionne. Mais dans les médias, donc, j'ai un roman de maman à terminer qui s'appelle Le murmure des ombres. C'est pareil, je ne savais pas ce murmure ni qui était ses ombres. Bon, quand j'arrive à la fin, ça prend un peu tournure. Ensuite, je dois faire des histoires d'Harry Dixon, mais en texte cette fois, la façon de genrer. Je dois faire un fascicule des aventures de Michel Sambourier, des fascicules à l'ancienne qui sont édités au cœur de place. Ça va s'appeler Les Mégères de novembre. Un extrait de texte de Pierre Dubois. C'est là que j'ai pioché le titre, je ne sais roman d'or que j'ai écrit pour nous, de des nouvelles sentimentales ou des histoires animalières pour enfants. Et là, je vais faire un roman du terroir. Il faut que je fasse un gros truc de 500 000 signes qui sera basé sur l'histoire de ma grand-mère dans les Ardennes, histoire plutôt imaginaire parce que je connais peu de choses. Donc, j'ai ça à faire et puis des tas de trucs. Je pense que je peux.
On a des jolis projets avec beaucoup de liberté. Je vous remercie pour cette petite heure passée ensemble.